Aujourd'hui, lors de la conférence de l'ONU sur le changement climatique COP22 à Marrakech, des experts et des décideurs du monde entier aborderont la question de l'impact du changement climatique sur les océans à l'échelle mondiale. Selon la FAO, les océans sont essentiels au maintien de la vie sur Terre. Ils constituent notamment d'importants puits de carbone, absorbent la chaleur et produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. La COP22, considérée comme COP de l'action, invite les gouvernements à faire davantage de progrès et à atteindre leurs objectifs nationaux. Madame Tarouk Bahri, fonctionnaire chargée des pêches pour le service des pêches marines et continentales du département des pêches de la FAO, nous en dit plus sur le sujet. Madame Bahri, bonjour.
Bonjour.
Selon les experts, le changement climatique a de profondes répercussions qui varient à l'échelle régionale sur les écosystèmes et les services marins. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce qui se passe dans les différentes régions du monde ?
À ce jour, les différentes études et modèles que nous avons à notre disposition montrent que les changements climatiques auront différents types d'impact suivant les régions. Par exemple, si nous prenons le cas de la pêche et l'aquaculture, l'augmentation des températures occasionne déjà la migration des espèces vers les zones polaires. Donc, les zones tempérées et polaires seront les grands gagnants à long terme, mais en revanche, les zones tropicales vont souffrir d'un déficit de ressources halieutiques, ce qui pose un problème de sécurité alimentaire dans les pays qui sont déjà vulnérables. Par ailleurs, les changements climatiques sont responsables de l'acidification des océans, donc ce qui dans certains cas a des effets délétères sur l'aquaculture, notamment l'élevage des organismes à coquilles comme les huîtres et les moules. L'acidification a également des impacts directs sur les récifs coralliens qui sont non seulement un habitat important pour de nombreuses espèces, mais également une source de revenus à travers la pêche, le tourisme. Et ce sont également des éléments fondamentaux pour la protection des côtes contre l'érosion. Ceci est d'autant plus critique que le réchauffement global occasionne une montée du niveau de la mer et par conséquent l'inondation et l'érosion des zones côtières de faible altitude va s'accentuer, ce qui est une source de préoccupation majeure, notamment pour les petits états insulaires en développement.
Quels sont les défis auxquels seront confrontés ceux qui tentent de faire figurer la question des océans à l'échelle mondiale parmi les nombreux autres problèmes liés au climat ?
Tout d'abord, faire comprendre l'importance des océans pour le climat et pour l'humanité au sens large. Les océans représentent 70% de la surface de la Terre et ils produisent 50% de l'oxygène que nous respirons. Par ailleurs, les océans absorbent 90% de la chaleur produite par les activités humaines et 25% du CO2 sont absorbés par les océans. Donc à ce titre, ils ont une importance cruciale en termes de climat. Alors, les océans sont également à la base de secteurs économiques qui génèrent plusieurs milliards de dollars par an. Donc actuellement, on a une estimation qui varie entre 3 et 6 milliards pour différents secteurs tels que la pêche, l'aquaculture, les biotechnologies, le transport, etc. En dépit de ça, les océans sont soumis à un certain nombre de pressions telles que la pêche intensive, la pollution, la dégradation des écosystèmes. Et plus leur état se dégrade, et moins ils seront en mesure d'assurer les fonctions que nous venons d'évoquer. Donc, en dépit de leur importance, les océans attirent moins d'attention et sont plus bas dans l'échelle des priorités que les secteurs terrestres. Donc, un autre défi est donc de mettre les océans sous le feu des projecteurs durant la COP22 pour attirer l'attention des décideurs et les sensibiliser aux différents enjeux environnementaux, socio-économiques et de gouvernance.
À votre avis, comment les gouvernements font-ils face aux questions relatives aux océans ?
Alors, même s'il y a encore du travail à faire, les gouvernements ont été sensibilisés par différents acteurs aux questions relatives aux océans. Dans le contexte des COP du climat, ceci se traduit par le fait que pour la première fois dans l'histoire des COP, l'accord de Paris, donc le premier accord universel sur le climat approuvé par 195 pays et entré en vigueur il y a quelques jours, mentionne de manière explicite les océans et les écosystèmes aquatiques. Donc lorsqu'on pense que l'accord de Paris est considéré comme la base de tout ce qui suit en termes de programmes et d'actions à mettre en œuvre, c'est un signal politique assez important. La COP22 promet d'être la COP de l'action. Donc une journée des océans est organisée dans le cadre officiel de la COP et l'enjeu est de discuter des solutions pour les océans et d'annoncer un certain nombre d'initiatives concrètes. Donc par cette journée de sensibilisation, on espère que de plus en plus de pays incluront les activités liées aux océans dans leurs engagements destinés à limiter les effets du dérèglement climatique à travers ce que l'on appelle les contributions nationales.
Pourriez-vous nous donner quelques exemples d'évolution des initiatives menées par les pays pour faire face aux impacts du changement climatique sur leurs territoires respectifs suite à la signature de l'accord de Paris sur le climat ?
Il est intéressant de noter qu'une soixantaine de pays ont déjà inclus la pêche et l'aquaculture dans leurs contributions nationales, ce qui signifie qu'ils s'engagent à mettre en place des mesures liées directement à ce secteur pour réduire leur dérèglement climatique. Donc concrètement, cela veut dire que ces pays sont en train de mettre en place des programmes de développement durable du secteur qui visent à renforcer la résilience des écosystèmes et celle des communautés face au changement climatique. Cela signifie également que ces pays se sont engagés à identifier des mesures pour limiter l'émission de gaz à effet de serre qui sont en lien direct avec ce secteur. Parmi les exemples concrets, on peut citer la réduction de l'utilisation du bois dans les opérations de transformation du poisson, une utilisation plus rationnelle des énergies fossiles par les bateaux, notamment en réduisant la consommation grâce à des mesures extrêmement simples comme réduire la vitesse, utiliser des filets propres qui opposent moins de résistance dans l'eau et réduisent ainsi la consommation de fuel. Ou d'autres lignes d'action qui sont à l'étude concernent les événements climatiques extrêmes avec un soutien aux communautés pour être mieux préparées à affronter les événements climatiques extrêmes avec un meilleur accès aux alertes météo et l'utilisation d'outils technologiques simples qui peuvent faire toute la différence.
Comment ces questions devraient-elles aller de l'avant après la COP22 ?
Après la COP22, nous espérons que les initiatives annoncées durant la journée des océans seront mises en œuvre avec un financement à l'appui. À la FAO, il y a déjà plusieurs projets et programmes en cours pour soutenir l'adaptation des communautés dépendantes de la pêche et de l'aquaculture en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Alors ces projets viennent renforcer le travail de fond qui est effectué depuis des années déjà sur la durabilité de l'exploitation des ressources naturelles. Alors j'insiste sur ce point de la durabilité parce qu'elle est à la base de l'adaptation au changement climatique. Sans gestion et exploitation durable, il sera encore plus difficile pour les écosystèmes, les ressources naturelles et les communautés qui en dépendent de s'adapter au changement climatique.
Je vous remercie, Madame Barré.
Merci à vous.